Europe 1, 14h-15h.
Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et justement, dans notre récit du jour, il sera question d'un grand acteur qui nous a quittés il y a quelques mois. Une fossette, des yeux bleus acier, je vais vous raconter la vie de Kirk Douglas à travers ses engagements, alors qu'un hommage lui a été rendu hier soir au Festival de Deauville. Un géant qui a traversé les époques sans jamais renier d'où il venait. J'en discuterai ensuite avec Hubert Attal qui lui a consacré un documentaire avec cette question. Pourquoi les acteurs sont-ils beaucoup plus frileux à s'engager politiquement aujourd'hui? À 14h30, votre nouveau rendez-vous, les films de ma vie. C'est Julie Gayet qui répondra aujourd'hui à notre questionnaire. Quel est son premier film vu au cinéma? Quel film l'a fait le plus rire? Quelle est sa scène de cinéma préférée? Et puis juste après, notre débat des critiques, où nous discuterons aujourd'hui de Police avec Virginie Efira et Omar Sy, des normes portées par Marina Foïs et Jonathan Cohen, et de mon coup de cœur qui s'appelle Antigone. On ira aussi écouter ce que vous en avez pensé à la sortie des salles. Voilà pour le programme de ce deuxième numéro de Clap. Et d'abord donc notre récit Kirk Douglas, une vie d'acteur engagé avec les riches archives d'Europe 1.
Europe 1, le récit.
Connaissez-vous le vrai nom de Kirk Douglas? Quand il est né le 9 décembre 1916 à New York, ses parents le nomment Isur Danielovitch Demski. C'est d'ailleurs le seul garçon au milieu de ses six sœurs. Et très jeune déjà, comme beaucoup de gamins, il se rêve acteur. Il racontera plus tard « J'ai voulu être un acteur depuis que j'étais enfant à l'école primaire. J'ai fait une pièce et ma mère m'a fait un tablier noir pour jouer un cordonnier. Après la représentation, mon père m'a donné mon premier Oscar, une crème glacée. » Cette âme d'enfant, Kirk Douglas va la conserver toute sa vie. Il le racontait sur Europe numéro 1 il y a 40 ans.
Les vrais acteurs, ils gardent toujours un peu de jeunesse dedans eux-mêmes. Ils sont les enfants. Comment on peut dire que je suis un cowboy contre Burt Lancaster avec le fusil à la main si je ne suis pas un peu un gosse?
Mais pour comprendre la vie et l'engagement de Kirk Douglas, il faut bien se figurer d'où il vient. Ses parents ont émigré de Russie, ils sont illettrés, pauvres. Kirk écrit dans son autobiographie « Enfant, nous n'avions rien. Et quand mon père ramenait quelque chose à la maison, il fallait se battre pour savoir qui pourrait le manger. » Une pauvreté du quotidien auquel s'ajoute l'antisémitisme. Ce pauvre gamin est régulièrement passé à tabac par des jeunes de son quartier. Et lorsqu'arrive son premier bal du lycée, la jeune fille avec qui il devait y aller annule à la dernière minute. Elle ne peut pas se montrer avec un juif et fils de chiffonnier qui plus est. Nous sommes désormais en 1939. C'est à ce moment-là, alors qu'il se met au théâtre, qu'un ami lui conseille de changer de nom. Isur Danielovitch Demski devient Kirk Douglas. Il enchaîne quelques expériences à Broadway et obtient son premier rôle au cinéma grâce à une certaine Lorraine Bacall.
J'ai commencé au cinéma à cause d'assistance de Lorraine Bacall. C'était elle qui a dit à quelqu'un, quand tu viens à New York, tu dois voir au théâtre un acteur qui s'appelle Kirk Douglas. C'est comme ça que j'ai commencé.
Nous sommes en 1941, le film se nomme L'emprise du crime.
Sentiment overwhelmed me. As I drank, I thought to myself, it's such a pity that my father isn't alive. To be able to see for himself all his dreams come true.
C'est le début d'une longue carrière, au cours de laquelle Kirk Douglas va tourner dans une centaine de films, avec autant de réalisateurs prestigieux.
J'avais de la chance parce que j'ai travaillé avec Howard Hawks, avec Willie Wyler, avec Billy Wilder, Elia Kazan, Joe Mankiewicz, Brian De Palma. Et maintenant, je crois qu'il y a plus de jeunesse dans le cinéma. Et je crois que ça, c'est bon.
Parmi les classiques, il jouera bien sûr les gladiateurs, on va y revenir, les cow-boys, souvent Van Gogh aussi.
Le rôle de Van Gogh, c'est un rôle qui me donne beaucoup de peur parce que c'est un caractère que tout le monde connaît. Ils ont lu beaucoup de choses concernant Van Gogh et c'est difficile de jouer un rôle quand beaucoup de gens connaissent très bien le caractère.
C'est dans le terreau de la pauvreté que j'ai trouvé mon engagement, disait Kirk Douglas. Car très vite, l'acteur va s'engager et porter des projets personnels. D'abord, en faveur de la cause indienne, dans La captive aux yeux clairs.
Quand je rêve, en changera.
That music kind of gets inside a man, don't it?
Yeah.
Mon amour pour toujours.
Grâce à ce film, Kirk Douglas réhabilite la figure amérindienne. Il y a aussi Spartacus, l'un de ses rôles les plus célèbres, l'histoire d'un esclave qui se révolte. En 1980, il en parlait sur Europe numéro 1 avec un certain Eddie Mitchell.
C'est un film très, à mon avis, très spécial parce que c'est difficile de faire un film, un spectacle. Et à Spartacus, je crois que les personnages ils ne sont pas plats.
Oui, justement, je veux dire, ça dépassait le... Comment dirais-je, la publicité qui a été faite dessus et qui annonçait un film à grand spectacle, ce n'était pas simplement qu'un film à grand spectacle.
Oui, oui.
Je suis Spartacus. C'est moi, Spartacus. Je suis Spartacus. Je suis Spartacus. C'est moi, Spartacus. C'est moi, Spartacus. Je suis Spartacus.
C'est avec ce film, Spartacus, que Kirk Douglas prend position contre le McCarthyisme, car il impose Dalton Trumbo, alors sur la liste noire, pour signer le scénario. Cette lutte, on en reparlera avec notre invité tout à l'heure. Côté politique, il était un démocrate assumé. Il a d'ailleurs parcouru le monde sous l'impulsion des gouvernements américains et notamment du président Kennedy. Ça aussi, on y reviendra. En tout cas, cet engagement va lui être beaucoup reproché, y compris par le milieu. Kirk Douglas sera même boycotté aux Oscars pendant des décennies avant de recevoir une statuette d'honneur en 1996 pour l'ensemble de sa carrière. Mais certains de ses films sont même interdits en Europe. C'est le cas des Sentiers de la Gloire, film antimilitariste, qui dénonce l'attitude des hauts gradés de l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Ce film est interdit en France jusqu'en 1975 et dans plusieurs pays d'Europe. En 1980, Kirk Douglas tourne aussi dans Nimitz, Retour vers l'enfer.
J'ai les sentiments mélangés parce qu'un mois après, l'exacte chose
l'accident,
est arrivée.
Oui, oui.
Le porte-avions avec le capitaine qui est devenu un ami, avec tous les marins. Et tout à coup, on voit dans aux télévisions et dans les journaux, le bateau est maintenant dans le Persian Gulf. Et ça me donne un sentiment curieux.
Et même en 2016, à plus de 100 ans, Kirk Douglas publie une tribune contre Donald Trump, dans laquelle il met en garde les Américains. Il compare même Trump à Hitler. Ce ne sont pas les valeurs pour lesquelles nous avons combattu lors de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à ce jour, je croyais avoir tout vu sous le soleil, mais je n'avais jamais été témoin de cette stratégie de la peur de la part d'un candidat majeur à la présidentielle américaine de toute ma vie. J'ai toujours été profondément fier d'être un Américain. Pour les jours qui me restent à venir, je prie pour que cela ne change jamais. Kirk Douglas, un acteur qui n'hésite pas à prendre position en faveur du nucléaire, par exemple, toujours sur Europe numéro 1.
Moi, je suis pour l'énergie nucléaire. On doit faire attention pour toutes les choses de sécurité. Mais on ne peut pas dire non, pas d'énergie nucléaire maintenant. Je crois que c'est trop tard pour ça maintenant, parce que ça existe partout.
Il disait « Je suis l'acteur le plus détesté d'Hollywood et ça ne me dérange pas du tout ». Alors j'aurais aussi pu vous parler de toutes ces fois où Kirk Douglas a échappé à la mort, ou de son amour pour la France, dans une prochaine émission peut-être. Mais avant d'accueillir Hubert Attal, qui a signé un documentaire consacré à Kirk Douglas pour discuter de l'engagement de l'acteur tout au long de sa vie, puis pour essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui les acteurs s'engagent moins, je voulais vous faire écouter une toute dernière archive sortie des placards de notre formidable service documentation, Kirk Douglas chantonnant.
Quand je suis arrivé à Paris, il y avait une chanson, je ne sais pas pourquoi. Moi, je m'envie, je deviens triste, et toi, tu ris. Parfois la nuit, je pleure tout bas. Toi, tu souris, c'est parce que t'as. Pour toi, le ciel est toujours beau. T'aimes le soleil et les oiseaux. Tu te fiches de tout. Moi, je suis jaloux. Ça me rend triste, ça me rend fou. Hein?
Ah, bravo!
C'est pas pour quoi, moi je m'ennuie, je deviens triste et toi tu ris. Parfois la nuit, je pleure tout bas, toi tu souris, je sais pas ce que t'as. Pour toi le ciel est toujours beau. T'aimes le soleil et les oiseaux, tu te fiches de tout. moi je suis jaloux. Ça me rend triste, ça me rend fou. Est-ce que tu m'aimes comme je t'aime? J'ai beau regarder dans le fond de tes yeux, je peux jamais lire ce qu'il y a en eux. Je sais pas pourquoi je suis malheureux. Parfois tu reviens si gaie, si heureuse, que tu as l'air d'être amoureuse, comme dans le temps quand tous les deux on s'aimait fort, on s'aimait tant.
Et certains d'entre vous auront sans doute reconnu le titre « Toi, tu souris » signé Marcel Mouloudji. On se retrouve dans un tout petit instant avec Hubert Attal pour la suite de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma.
14h-15h, Clap. Mathieu Charrier sur Europe 1.
Et il y a quelques instants, dans le récit de Clap, je vous racontais l'histoire de Kirk Douglas et de son engagement politique, sociétal. Je voulais en discuter avec vous, Hubert Attal. Déjà, merci d'être là.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez signé le documentaire Kirk Douglas, l'Indompté, qui est diffusé d'ailleurs ce week-end au Festival de cinéma américain de Deauville, qui a rendu hommage à Kirk Douglas hier soir. On le retrouve aussi régulièrement sur OCS. Donc, je dis à nos auditeurs, vous pouvez aller voir ce beau documentaire. La première question, est-ce que vous diriez que Kirk Douglas était l'acteur le plus engagé de son époque ?
Oui, d'une certaine manière, oui, parce qu'il a été en pointe dans beaucoup de domaines. Alors lui, il a commencé à être actif à Hollywood tout juste après la guerre, en sachant que de toute façon, déjà avant guerre, il y avait les ligues anti-nazis, les ligues anti-macartistes. Mais lui, dès qu'il est arrivé, oui, il a été tout de suite au front, si je puis dire, en revenant du front. Précisément parce qu'il voulait combattre les nazis. Il avait des problèmes oculaires, donc il a été un peu mis sur la touche de l'armée, où il a été blessé quand même dans une explosion sur un navire, ce qui fait qu'il a dû... il est passé d'un front à un autre, tout de suite.
Selon vous, c'est son enfance, on en parlait tout à l'heure, mais cette enfance pauvre, victime d'antisémitisme, qui a forgé cet engagement ?
Alors moi je pense que ça se joue sur deux niveaux, c'est que à la fois il y a cette préoccupation, la première préoccupation qu'il a eue sur cette question du front sociétal, c'est qu'il a rencontré la question de l'antisémitisme tout de suite aux États-Unis. Et il faut savoir que jusqu'en 65, les États-Unis, il n'y a pas eu de réforme sur cette question de l'antisémitisme jusqu'en 1965. Donc quand, par exemple, il était à Hollywood, même si Humphrey Bogart, par exemple, qui était le compagnon de Lauren Bacall, qui l'avait introduit à Hollywood, il posait la question à Lauren Bacall de savoir pourquoi un type comme Humphrey Bogart, qui était aussi engagé politiquement, commerçait avec des clubs où il y avait de l'antisémitisme ou des choses comme ça. C'est d'abord l'antisémitisme qui l'a forgé, mais aussi, je pense, il y a une structure de la personnalité très particulière à Kirk Douglas qui est une suite de brisures. Il y a la brisure du nom, Isur, Kirk. Il faut savoir que Isur, c'est...
Le prénom d'origine de Kirk Douglas.
Et ce système de brisure va créer une espèce d'étayage de la personnalité qui va être absolument inédit à Hollywood et il n'y aura pas d'équivalent même par la suite.
Kirk Douglas, il va s'engager aussi politiquement. Mais quand je dis politiquement, c'est qu'il va être porte-drapeau du Parti démocrate. Il va faire le tour du monde pour le Parti démocrate. Ça, il n'y a plus d'acteurs aujourd'hui qui font ça.
Non, mais peut-être parce qu'il n'y a pas de... Le monde des stars s'est un peu dilué. Il faut savoir que quand Khrouchtchev vient à Hollywood à l'époque de la présidence de Kennedy, la première personnalité d'Hollywood qui demande à rencontrer, c'est Kirk Douglas. C'était vraiment l'acteur. C'était la personnalité mondiale. Et effectivement, le Parti démocrate, mais plus à l'époque de Lyndon Johnson, va lui demander d'être ambassadeur itinérant pour les États-Unis. Et il va faire le tour du monde. Et à chaque fois, c'était un accueil incroyable. Bon, aujourd'hui, effectivement, il y a des stars. Mais je ne crois pas qu'il y ait l'équivalent de ce qu'ont été alors avant Chaplin ou Kirk Douglas dans les années 50. Ça n'existe plus.
Et pourquoi les stars ne s'engagent plus en politique? On pense à Leonardo DiCaprio qui parle d'écologie, etc. Mais ne s'engagent plus pour des partis. Ils ont peur pour leur image, ils ont peur...
Entre-temps, il y a eu le système médiatique qui s'est installé, qui a un peu, démocratisé la question de l'originalité. On est tout de suite original aujourd'hui et on se retrouve très vite dans une mouvance. Et effectivement, les artistes aujourd'hui, quand ils s'engagent, ils se trouvent tout de suite, pas noyés, j'exagère, mais tout de suite impliqués dans cette mouvance. Ils ont du mal à se distinguer. Tandis que Kirk Douglas, quand il fait œuvre d'originalité, quand il participe à des westerns où il faut avoir un flirt, voir des relations avec une indienne, ou faire Spartacus, enfin tous ces grands films très engagés, à chaque fois, c'est une originalité fondamentale par rapport au système hollywoodien.
À l'époque, il n'y avait pas en France d'équivalent.
Non, mais ça, c'est une différence vraiment de culture. C'est-à-dire que le problème des artistes américains, ça a été vraiment la lutte contre, à partir du code Hays, qui a précédé le maccartisme, les deux étant liés, ça a été de préserver leur indépendance artistique en se méfiant à l'extrême de l'extrême droite, précisément. La situation des artistes européens était différente parce que eux, ils étaient sur le champ de bataille. S'il y avait une guerre nucléaire, c'était en Europe que ça se passait. Donc, il fallait choisir un camp. Ils n'avaient pas à se protéger de l'extrême droite. Ils voulaient faire œuvre sociale en s'engageant, en général, plutôt du côté de la gauche et du Parti communiste. Mais ce n'était pas la même situation parce que les artistes américains, eux, ils avaient participé à partir de la Grande Dépression de 1929. Ils ont collaboré avec le gouvernement américain. C'est les fameuses photographies de Dorothea Lange et le travail des écrivains. Il y a eu un vrai travail de collaboration avec le gouvernement des États-Unis, en étant en général plutôt à gauche, tandis qu'en Europe, il fallait se démarquer du pouvoir parce que, parce que c'était des gouvernements plutôt de droite et libéraux.
Le code Hays, pour rappeler, c'était un code qui avait été mis en place et qui interdisait à peu près tout dans le cinéma, avant le maccartisme. Et qui, du coup, effectivement, a poussé les acteurs et Hollywood, à un moment donné, à se rebeller, pour la faire courte.
Absolument, c'est tout à fait ça.
Aujourd'hui, vous diriez qu'il y a un équivalent de Kirk Douglas aux États-Unis ?
Alors, moi, je pense que George Clooney a essayé de reprendre le flambeau, mais reprendre cette place qui a été très, très particulière, c'est impossible. Enfin, parce qu'effectivement, la situation dans le système médiatique actuel est très différente. Et d'ailleurs, quand Kirk Douglas a écrit des choses contre Trump, ça a tout de suite eu aux États-Unis un retentissement qu'on a peine à imaginer, alors qu'il avait 102 ans, je crois, à ce moment-là. On n'a pas d'équivalent ni aux États-Unis, ni en Europe, d'une telle personnalité.
Bon, on essaie d'en raconter un petit pan de sa vie aujourd'hui à Kirk Douglas.
Ouais.
Donc là, votre émission cinéma. Merci beaucoup, Hubert Attal, d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle donc votre documentaire Kirk Douglas, l'Indompté. Encore aujourd'hui, je crois, il est projeté à Deauville pendant le festival. Et puis sur OCS, on peut le voir, le revoir en VOD. Bref,
absolument.
Que tous ceux que ça intéresse y aillent. Dans un tout petit instant, c'est la suite de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Ce sera notre séquence Les films de ma vie avec aujourd'hui Julie Gayet. Quel est son premier film vu au cinéma? Son film préféré mais honteux? Le film dans lequel elle aimerait vivre? Et bien d'autres questions d'ailleurs. Ses réponses dans un tout petit instant.
14h-15h, Clap sur Europe 1. Mathieu Charrier.
Et on se retrouve pour la suite de Clap. Place à notre questionnaire de Proust version 7ème art. Aujourd'hui, on est avec Julie Gayet, productrice, actrice. Bonjour.
Bonjour.
Pas trop stressée de répondre à ce questionnaire?
Ah si, à fond. Voilà, je suis attention, tension, concentration.
Allez, on y va. Votre premier souvenir de cinéma?
Mon premier souvenir de cinéma, pas facile, je dirais Bambi. Bon, ben, un peu comme beaucoup de ma génération parce que j'étais petite. Mais tout de suite, j'enchaîne avec Le Roi et l'Oiseau parce que je pense que c'était pas loin d'être en même temps et ça a été peut-être presque plus fort, Le Roi et l'Oiseau.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. À cette époque, régnait encore le roi Charles V et 3 fonds 8 et 8 fonds 16 de tachycardie.
Votre meilleur souvenir en salle?
Ah, bah, ça restera Star Wars. Je suis de cette génération qui a vu les premiers Star Wars en salle. Bah, c'était une claque.
Vous
Alors, je suis allée voir les derniers, mais je dois avouer, pas forcément eu la même passion. J'ai aimé, mais c'est pas la même chose. C'est plus la même chose. Déjà, il n'y a plus... Si Yann Solo n'est plus là, Harrison Ford était mon héros, donc voilà. Non, je suis allée voir la suite, évidemment, mais c'est pas la même chose.
Je suis ton père.
Votre pire souvenir en salle?
Mon pire souvenir en salle, c'était à Cannes. Et parce qu'en réalité, les gens quittaient la salle. Et donc, les sièges, ça faisait comme des strimbons, ça faisait clac, 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 clac. Tout le film, c'était un rivette, c'était La Belle Noiseuse. Et c'était terrible, le film était un peu long, certes, mais c'est d'une violence. Oh, j'avais mal au ventre pour les acteurs et le réalisateur.
Le film que vous auriez aimé voir au cinéma?
Ah, une bonne question. Laurence d'Arabie, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais vu au cinéma. Pourtant, il y a des rétrospectives. Moi, je fais partie de ceux et celles qui adorent le Festival Lumière à Lyon sur les vieux films. Aller voir des vieux films, j'adore ça, des rétrospectives, des ciné-concerts. J'ai vu des choses merveilleuses. Mais Laurence d'Arabie, pourtant ça ne devrait se voir qu'au cinéma, je ne l'ai jamais vu.
Vous a fait le plus rire?
Ah bah alors là, c'est Louis de Funès.
Alors moi, il m'épate.
C'est tous les Louis de Funès. Je peux pas vous dire n'importe lequel. C'est ce qui... Louis de Funès, c'est... Je paie n'importe quel Louis de Funès, je suis morte de rire.
C'est pas possible.
Voilà, et Pierre Richard. Ça, c'est mon dieu. C'est mon idole.
Monsieur le ministre, je vous présente le Grand Blond.
Le Grand Blond reste... Voilà, pareil, j'ai des fous rires avec Pierre Richard, mais... Pierre Richard, Louis de Funès, n'importe lequel. Voilà, je les prends tous.
Le Grand Blond avec la chaussure noire.
Qui est-ce?
Vous n'allez pas le savoir.
J'ai été obligé de rentrer à Paris avec une chaussure marron et une chaussure noire.
Le film que vous aimez, mais vous avez honte de l'avouer.
Ah, le film que j'aime et que je n'ose pas avouer. Oh, bah, il y en a un. Alors ça, je pense qu'on en a un petit paquet. Moi, j'adore Grise.
Sandy.
Hein, je connais tous les dialogues.
Vends-moi tes salades, mec.
Mais beaucoup de comédies musicales d'ailleurs. Pourquoi on n'ose pas avouer qu'on aime les comédies musicales d'abord? Je ne comprends pas. C'est dommage.
Vous a fait le plus pleurer?
Moi, ça, c'est des souvenirs plus enfants, c'est des souvenirs plus... Mais récemment, il y a quelques films comme ça où pendant 2 heures après, j'ai du mal à bouger, où je suis complètement... Je sais que Breaking the Waves, ça avait été un film comme ça où je m'étais retrouvée à la sortie du cinéma, je ne pouvais plus bouger. Voilà, il y a Suzanne de Catel qui les verrait, qui m'a fait cet effet-là aussi, où je me suis assise, je ne pouvais plus bouger. Il y a quelques films qui, pourquoi ça nous touche, nous, à un moment de notre vie.
Le film que vous avez le plus vu?
Ça peut être surprenant, mais je pense que c'est Volte-face.
Oui, ce qu'il est joli et sexy.
On dirait que c'est un miroir, sauf que il n'y a rien.
Bien entendu, j'ai brûlé tout ce qui pouvait prouver que tu es toi. Donc du coup, waouh, t'es bon pour rester en tôle...
Jusqu'à la fin de tes jours, hein.
Oh, ah, ce qui me manque, ce visage.
J'adore les films d'action, les films de Hong Kong, les films d'arts martiaux. Voilà, bon, Tigre et Dragon. Bah c'est vrai, Épouse et concubine, c'était moins les arts martiaux, mais quand même. Mais vraiment, oui, Tigre et Dragon, Volte-face, j'ai dû voir tous ces films-là énormément pour voir comment c'était réalisé, comment, voilà. Les films d'arts martiaux.
Un dialogue de cinéma que vous connaissez par cœur.
Ce serait une chanson. Et ce serait Jeanne Moreau dans Jules et Jim. C'était « Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. » Ce seraient des chansons, très bizarrement. Oui, plus que des dialogues, c'est des chansons.
Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Le film que vous conseilleriez à votre meilleure amie?
Bah, je dirais Les Joueuses, hein, de Stéphanie Gillard, qui est donc un film sur le football féminin. Alors là, ce sont les meilleurs. Voilà. Comme dirait le New York Times, la meilleure équipe de foot n'est pas celle que vous croyez. Elle est française, elle est féminine, c'est l'OL. Voilà.
J'avais pas de modèle joueuse, malheureusement, parce que j'en voyais pas à la télé, je savais pas qui jouait. Quand j'ai débuté, je savais même pas qu'il y avait une équipe de France. C'est aussi pour ça qu'on continue de gagner.
Donc allez voir Les Joueuses, tous en salle, le 9 septembre.
Et pour finir, la bande originale qui vous a le plus marqué dans votre vie?
Eh bien, là, je dois dire que j'étais assez contente, parce que on parle peu de musique de film, donc merci pour cette question, parce que ça fait plaisir. Et bien c'est The Joker qui vient d'avoir quand même, c'est une femme qui a eu l'Oscar de la meilleure musique pour The Joker. Et je dois dire que cette année, le film est très beau, mais alors la musique est magistrale.
Quand j'étais petit et que je disais que je voulais faire comique quand je serais grand, tout le monde riait de moi. Ben y a plus personne qui rit maintenant.
D'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Et nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de Club, votre nouvelle émission cinéma. A tout à l'heure.
14h-15h sur Europe 1. Club. Mathieu Charrier.
Et on va maintenant parler des films sortis en salle cette semaine, lesquels allez voir ou éviter éventuellement. On va tout vous dire. Autour de la table aujourd'hui, Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour mon cher Fabrice.
Bonjour Mathieu.
Et merci d'être là. Et Thierry Chaise de Première. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice.
On va parler des amabilités. Après, ils vont s'engueuler. Mais on va parler aujourd'hui de Police avec Virginie Efira et Omar Sy, notamment d'Énormes porté par Marina Foïs et Jonathan Cohen, qui d'ailleurs donne une petite polémique un peu stupide à mon avis, mais on va y revenir. Et d'un film québécois, petite pépite, là encore de mon point de vue, c'est Antigone. Mais commençons d'abord par Police, le nouveau film d'Anne Fontaine.
Un gars doit être présenté à l'avion dans 3 heures, c'est nous qui faisons la reconduite frontière.
Ça te fait rien d'envoyer un homme à la mort?
Les types, ils exagèrent les menaces pour avoir leur statut de réfugié.
Comment on fait la différence entre un réfugié et un terroriste?
Ça suffit! Vous me faites chier!
Personne n'est innocent, jusqu'à preuve du contraire.
Voilà, l'histoire de trois flics, c'est donc Virginie Efira, Omar Sy et Grégory Gadebois, un peu paumés dans leur vie perso, qui vont devoir reconduire un sans-papier à l'aéroport afin qu'il soit expulsé dans son pays. Sauf qu'en chemin, Virginie ouvre son dossier, ce qu'il ne faut jamais faire, et découvre que s'il rentre chez lui, eh bien, il risque la mort. Début évidemment d'un dilemme. Filmé des trois points de vue, c'est-à-dire que certaines scènes sont remontrées, mais du point de vue d'un autre personnage, on va y revenir. Mais d'abord, qu'en avez-vous pensé, vous, à la sortie des salles ?
C'est vraiment très bien réalisé, c'est pur, il n'y a pas de pathos excessif, enfin c'est magnifique.
C'est un film très intéressant, un peu déprimant au début.
Ça montre une tranche de vie de ce qu'est la police, on en sort un peu chargé.
Toute l'entrée dans le film qui se fait avec trois changements de point de vue, ça nous donne cette liberté que va avoir le film. Le film ne donne pas de leçons, il ne fait que poser des questions.
C'est très très lent. On sent qu'il pense.
C'est de l'introspection,
quoi. Après avoir vu Tenez, ça repose.
Après avoir vu Tenez, ça repose, c'est sûr. Fabrice Leclerc, est-ce que vous êtes d'accord ? Le public a aimé, visiblement, et vous ?
Et moi, j'ai assez aimé. Je vous le dis, moi, je ne suis pas toujours candidat et amateur du cinéma d'Anne Fontaine, que je trouve parfois un peu bourgeois. Et là, pour le coup, ce n'est pas du tout bourgeois. Moi, j'ai beaucoup aimé ce huis clos. C'est extrêmement tendu. Ça se passe sur une nuit. Et ça parle d'une chose très intéressante qui, pour moi, est le questionnement moral de la police. Plus que la fin, peut-être. Voilà, sur
oui, la fin est un petit peu ratée. Mais...
Le destin de ce sans-papier, c'est pas ce à quoi on s'attend. Pour le coup, superbe casting. Virginie Efira, comme d'habitude, est parfaite. Grégory Éric Gadebois également. Omar Sy, lui, est très bien.
Aussi, ce qui n'est pas toujours le cas.
Voilà, vous m'enlevez les mots de la bouche. Mais voilà, c'est un très beau film pour le coup, très tendu, très huis clos, qui se passe quasiment uniquement dans une voiture, en tout cas les trois quarts du film. Film très intéressant, très charnu et avec beaucoup de cinéma.
Thierry Chasse, j'ai lu votre critique dans Première. Elle est positive, mais... Vous connaissant, je sentais que vous n'étiez pas non plus totalement emballé.
Non, moi, je suis plutôt client d'Anne Fontaine parce que je ne sais jamais ce que je vais voir quand je vais voir un film d'Anne Fontaine. Elle fait tous les genres. Oui. Elle fait tous les genres. Elle s'est intéressée à des infirmières violées en 1945. Elle a adapté le bouquin d'Eddie Bellegueule. Elle a remis au goût du jour, à sa manière, le Blanche-Neige. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est quelqu'un qui prend la parole autour de la police, alors que cette parole, normalement, elle n'a pas le droit de le prendre. En gros, elle est confisquée par beaucoup qui pensent avoir la vérité. Donc, certains attaquent l'attaque sur un cinéma bourgeois. Et là, elle sort du cinéma bourgeois. On dit, mais qui est-elle pour s'en mêler ? Et ça, moi, j'aime bien ce côté-là. Moi, ce que j'aime pas beaucoup, c'est le début.
Voilà, le mais.
Le début, qui est, on suit d'abord une personne, comme vous l'avez dit, puis une deuxième, puis une troisième. Pourquoi pas ? Et puis alors...
Et sur les mêmes scènes, faut préciser.
Et puis après, c'est fini. Comme si on avait eu un début de montage, qu'un autre monteur était arrivé, et voilà.
Mais c'est une mise en bouche.
Ouais, elle est très lourde, je trouve. C'est très...
Ça permet aussi de comprendre d'où viennent nos trois personnages.
Oh, est-ce qu'on ne peut pas comprendre autrement ? On n'est pas dans Téné.
Et
j'aime pas beaucoup la fin non plus. Parce que moi, j'aurais aimé que ça se termine au bout de la nuit. Oui. Je n'ai pas besoin d'avoir le jour d'après. Ceci mis à part, c'est quand même, je trouve, à mon film, une fois encore, c'est bien qu'il y ait ce regard-là aussi sur la police de quelqu'un qui... supposément, n'aurait pas le droit, soi-disant, vu de sa position, d'en parler.
Et ça fait du bien de parler de la police autrement que par les violences policières. Voilà, tout ça n'est pas du tout dans l'actualité.
En tout cas, d'exposer telle qu'elle, elle ne prend pas position, elle ne prend pas parti. Hein. Elle expose ce qu'est aujourd'hui la vie d'un policier, ce que je trouve, pour moi, journalistiquement très intéressant.
Voilà pour Police, donc, le film signé Anne Fontaine. Clap. Deuxième film dont on débat aujourd'hui, c'est énorme. Alors, on va en parler, signé Sophie Le Tourneur.
Quoi ?
J'ai grossi.
T'as pas grossi, chérie, t'es magnifique.
Mais c'est quoi ces mes seins ? Ils sont énormes.
Ah oui, il y a une grosseur là.
Une tumeur ?
Ah bah je comprends. Bah, c'est un bébé.
Un bébé cancer ?
Alors l'histoire. Marina Foy, c'est Claire, c'est une grande pianiste toute dévouée à son art qui, en conséquence, ne veut pas d'enfant. Sauf qu'un beau jour, son mari, agent, garde du corps, comme il aime se présenter, c'est Jonathan Cohen, se réveille, il a la quarantaine et lui, il a très envie d'être père. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va échanger la pilule de sa femme contre une petite sucrète, ça marche, et il va alors vivre la grossesse à la place de sa femme. Donc c'est bien elle qui est enceinte, mais c'est lui qui grossit, on est au-delà de la couvade, qui va au cours d'accouchement, qui annonce d'ailleurs à la sage-femme qu'il veut allaiter. Voilà, vous l'aurez compris, on est dans la loufoquerie, ça fait un petit peu polémique, on va y revenir, mais d'abord, est-ce que vous, ça vous a fait rire ?
Très bien, mais moins drôle que dans les extraits quand même.
Le début est très drôle et la fin est immensément émouvante.
La séance sur l'accouchement était un peu longue.
20 dernières minutes, une scène d'accouchement, un documentaire, franchement, déçu.
C'est pas trop quoi en penser, parce que ça donnait vraiment une comédie. Et c'était un peu sérieux quand même, mais pas trop, mais c'était quand même très sympa.
Marina Foy, c'est pas comique du tout. Jonathan Cohen, pour lever un peu le niveau comique du film, justement, avec des blagues, c'est assez déroutant.
Ouf, parce que j'en avais marre, hein. Oh, c'était pénible, hein.
Voilà, énorme rhabillé
bon,
pour l'hiver.
Ben on n'a plus besoin.
On n'a plus besoin. Alors,
on va aller prendre un café, Thierry.
D'abord, rapidement, messieurs, avant de revenir sur la polémique, Thierry Chasse, énorme, oui ou non ?
Non.
D'accord, pourquoi ?
Le mélange des genres, c'est super. Donc l'idée de faire un film, voilà, un peu en effet documentaire, comme c'est dit, d'aller dans le burlesque, moi je trouve ça absolument génial, d'autant plus avec des acteurs-là, mais pour moi ça ne fonctionne pas. Parce que ce burlesque-là est trop cérébralisé pour moi. Et que d'un seul coup, je vois quelqu'un qui veut vraiment faire burlesque, qui veut vraiment faire les Farelli. Et non, Sophie Le Tourneur n'est pas des Farelli. Elle a d'autres qualités, ces petits films jusque-là d'auteur, on connaît. Si, ces petits films. Mais non, mais parce qu'elle avait, en moyen et en court-métrage, ça fonctionnait.
Ah oui.
Moi, je ris au début. Et c'est vrai qu'après.
Ah bon?
Ah si, je ris au début. Il y a Jonathan Cohen. Déjà, moi, je suis obligé de rire. Et après, je trouve que le film bascule vers quelque chose qui intéresse profondément la cinéaste, dont on sent que cette histoire lui est proche, mais qui me désintéresse, moi, peu à peu jusqu'au bout. Donc, je regarde et je vois, en effet, quelqu'un qui s'efforce à me faire rire, puis à m'émouvoir et vraiment à me tordre le bras, et ça ne marche ni dans un sens ni dans un autre.
Bon, Fabrice Leclerc, j'ai même pas besoin de vous demander.
Non, mais moi j'adore le cinéma quand il veut être vulgaire, j'adore le cinéma quand il veut être transgressif, et vraiment, ceux qui me connaissent le savent. Pour autant, là, je me retrouve devant un film qui veut faire de l'esbrouf, de l'épate, choquer pour choquer. Alors, pourquoi pas? Mais quand on veut choquer pour choquer, il faut savoir écrire, il faut savoir écrire des gags, il faut savoir diriger des acteurs. Et là, la pauvre Marina Foïs, le pauvre Jonathan Cohen sont totalement perdus. On le voit, ils ne savent même pas ce qu'ils jouent. D'ailleurs, ils ne savaient pas quasiment ce qu'ils jouaient quand ils tournaient. Ça pourrait être marrant.
Mais
il y a un moment où il faut que ce soit spirituel, drôle, transgressif et pas des nonces bourgeois comme ça. Et dernière chose, moi, quand je vais au cinéma, j'ai envie de voir du cinéma. Et là, zéro degré de cinéma. Pas de mise en scène, évidemment, pas de direction d'acteur, pas de photo, un montage que n'aurait même pas fait un étudiant en cinéma en première année. Franchement, cette négation du cinéma, qui est volontaire, hein, parce que
Il faut
Sophie
préciser
Le Tourneur,
qu'elle tourne avec des petites équipes.
Voilà, elle est là pour ne pas faire de cinéma. Elle est là dans le réel, elle est là dans le brut, elle est là pour balancer des trucs à la gueule du spectateur. Ben, je m'excuse pour ça, il faut de l'inspiration et du talent.
Mais je suis d'accord, mais ça ne mérite quand même pas cette polémique. On l'a vu sur le plateau du petit journal de Yann Barthès, enfin de Quotidien, comme on dit, face à une chroniqueuse qui expliquait qu'en fait, forcer sa femme à avoir un enfant, c'était 2 ans de prison et je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'euros d'amende. Marina Foïs qui se décompose, la vidéo fait le buzz sur Internet. On ne peut pas faire ce procès-là à Sophie Le Tourneur,
ah
on est d'accord.
Mais bon, non, voilà. Quel intérêt. Enfin, Sophie Le Tourneur, elle fait un film, donc c'est une,
et puis sur
c'est
le,
une création artistique.
Et puis sur le corps-objet, le corps, c'est-à-dire qu'au contraire, on peut même voir le film.
Oui, voilà, et puis sinon, on ne fait plus aucun film.
Ça rappelle exactement ce qui s'est passé avec Mignonne, la polémique sur quelque chose qu'elle. C'est vraiment la même chose 15 jours après, donc c'est assez triste.
Énorme, donc, signé Sophie Le Tourneur.
Clap.
Enfin, troisième film que je voulais absolument qu'on aborde, c'est Antigone.
Enlève ta veste, regarde ici dans la caméra. Bon, t'as le droit de faire un appel. Puis ici, on a une liste des avocats pour la jeunesse.
T'as enfreint la loi pour ton frère. Sacrifie ta liberté pour lui.
Je suis solidaire de ma famille.
Peu importe ce que tes frères ont fait.
Voilà, Antigone, film québécois, j'allais dire petit film par son budget, mais grand par sa réalisation, je trouve personnellement. On va voir si vous êtes d'accord avec moi. C'est une énième réinterprétation, on va dire, de la tragédie de Sophocle. Alors, on va suivre Antigone, qui est une adolescente immigrée avec sa famille au Québec. Ses parents ont été assassinés dans son pays d'origine. Et donc, elle vit avec sa grand-mère, sa sœur, ses deux frères, dont un qui se retrouve emprisonné et menacé d'expulsion parce qu'il est majeur. Elle est mineure, elle ne risque rien pour l'instant. Donc, elle décide de prendre la place de ce frère en prison. Elle se déguise, s'échange, si je puis dire, lors d'un palois. Et elle va devenir le symbole et la porte-parole des invisibles de la société québécoise et de la jeunesse. Qu'en avez-vous pensé ?
Je suis un peu bouleversée là, mais j'ai beaucoup aimé. C'est très riche et c'est très très beau visuellement.
J'ai adoré, moi j'ai trouvé ça super bien. C'était très bien écrit, très intelligent.
J'aime beaucoup l'accent québécois. Moi j'ai beaucoup aimé la scène où Antigone entre quand elle est dans la maison de détention pour jeunes. Ses amis se sont teint les cheveux en rouge et moi j'ai trouvé ça très touchant.
Une manière extrêmement émouvante de ramener la mythologie vers nous.
Je vois que vous êtes émue.
Un peu parce que je suis grec.
Voilà, un monsieur ému. Et je dois dire que j'étais pas loin de cet état-là quand je suis sorti du film. Fabrice Leclerc, Antigone.
J'ai beaucoup aimé parce que moi, ça m'a fait penser un peu aux Misérables. Il y a certains côtés du film qui peut faire penser aux Misérables. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui parle de la société multiculturelle et des problèmes qu'elle suscite. Mais quel romanesque, là, pour le coup. Que de cinéma, un personnage, alors Antigone, vous le disiez, voilà, Sophocle, Anouilh, on l'a vu 100 000 fois, et pour autant, le personnage est extraordinaire. Alors ça part parfois dans l'excès, mais c'est pas grave. On est face à une metteur en scène absolument géniale, qui a plein d'idées, qui sait écrire des personnages, qui sait porter une histoire un peu exagérée, mais d'une manière brillante. Voilà, c'est une espèce d'uppercut qu'on se prend dans la figure. Uppercut plus sur le cinéma d'ailleurs que sur le sujet. Vraiment, belle découverte.
Et belle actrice d'ailleurs, qui incarne ce rôle. Thierry Chaise, Antigone.
Naïma Ricci, vraiment, qui est une prestation de l'année. Moi, je partage complètement votre enthousiasme, mais justement, j'adore ce qui pourrait être un film sujet, une fois qu'on adapte au-delà de ça. Elle ose en faire du cinéma. Alors, parfois, ça déborde dans tous les sens, ça accompagne. Peut-être, parfois, ça en rajoute sur cette jeunesse qui bouillonne. Mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça comme j'ai pu aimer ce que peut faire un Xavier Dolan, comme j'ai pu aimer ce que peut faire un Baz Luhrmann. On est dans cette idée-là que l'image va traduire. Et voilà, et ça passe en force. Et en effet, d'un seul coup, il y a aussi une déclaration d'amour au cinéma. Et pour, si on compare aux Misérables, moi, j'ai pris plus de plaisir et plus d'émotion à voir Antigone que Les Misérables, je dois dire.
Ouh là là.
Non, mais voilà. Je le comparais parce que je crois qu'on
est
dans,
à juste titre.
Dans le même propos. Et dans la même force de cinéma. On se prend ça dans la gueule, excusez-moi. Et je comprends que le monsieur en ressorte ému, que des gens en ressortent ravis, qu'ils aient pas envie de parler en sortant. C'est vraiment l'impression qu'on a quand on en sort.
Voilà, notre tiercé du jour, Antigone, donc, à aller voir absolument, Police aussi, pourquoi pas, on passe un bon moment de cinéma. Énorme. Bah, à vous de voir.
Mais non,
moi,
si,
je suis un petit peu moins extrême que vous, mais c'est vrai que c'est pas forcément le film de la semaine. Je voulais aussi vous signaler, tiens, rapidement, la sortie en kiosque d'un nouveau MOOC. Vous savez, c'est ces magazines richement documentés et illustrés consacrés au cinéma. Ça s'appelle Frenchmania, avec un premier numéro dans lequel vous dînerez notamment avec Virginie Ledoyen. C'est pas désagréable. Vous allez plonger dans les archives d'Agnès Varda ou revivre la grande histoire des séries françaises. Il y a plein d'autres choses. Donc voilà, Frenchmania, ça coûte 18,90€ et vous trouvez ça dans les bonnes librairies. Merci beaucoup, messieurs. Thierry Chaise, qu'on lit dans Première, numéro consacré à Alexandre Astier et à Kaamelott, qui arrivent, on l'espère, bientôt dans les salles. C'est toujours annoncé pour
novembre. En novembre, 25 novembre.
Avec un grand entretien avec Alexandre Astier et Fabrice Leclerc, toutes les semaines, dans Paris Match. Merci beaucoup, les amis.
Merci.
Merci.
À la prochaine. Voilà pour notre deuxième numéro, déjà, de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. J'espère que vous passez des bons moments en notre compagnie. Merci à Marjorie Adelson, qui prépare cette émission et qui va vous voir à la sortie des salles pour recueillir vos impressions. Nicolas Baudin, qui la réalise. Et rendez-vous samedi prochain, toujours à 14h, pour un récit consacré au magnifique documentaire Adolescente. Je ne vous en dis pas plus. Juste après les infos, vous retrouvez Isabelle Morizet et son invité du jour, Aymeric Caron. Bon après-midi sur Europe 1. Clap.